Je vais donc vous parler de la confession d'Augsbourg. Le catholicisme suppose la sainteté, l'apostolat, mais aussi l'unité qui, hélas, n'a pratiquement jamais pu être maintenue. Saint Paul s'en plaignait déjà dans sa première lettre aux Corinthiens. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre ». Le Christ est-il ainsi divisé ? L'hérésie protestante en est une preuve supplémentaire. Plusieurs congrès et synodes furent convoqués pendant la crise luthérienne. Au cours de l'un d'eux, à Spire, les réformés acceptèrent de prendre le nom de protestants, mais les participants ne purent s'entendre sur l'Eucharistie. Zwingli et Luther refusèrent aux opposants le nom de frères. Cela est confirmé de nos jours par le nombre de sectes protestantes, ce qui nuit beaucoup à l'indispensable évangélisation du monde. Le musulman ou le bouddhiste qui veut se faire chrétien se voit proposer un choix, orthodoxe, catholique, évangéliste, anglican, calviniste, mormon, etc. Cela fait penser au Salon des Vins, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Alsace, etc. En 1529, l'histoire du protestantisme en Allemagne est une suite de compromis, de réunions, un monde de diète et de synode, dit l'abbé Huvelin. Les discussions ne pouvaient guère s'achever en l'absence d'une autorité suprême. C'est tout l'avantage du pape, et c'est ce qui fait qu'actuellement, le monde musulman a bien de la peine à dégager une doctrine, car il n'y a pas d'autorité suprême. Les politiques rêvent souvent de se servir du temporel pour mettre la main sur le spirituel. Aussi, Charles Quint participe à plusieurs de ces réunions, mais il restait fidèle à la foi de l'Église, pendant que les papes Clément VII, 1523-1534, et Paul III, 1534-1548, cherchaient à reculer la convocation d'un concile dans lequel ils voyaient un éventuel danger, bien qu'il fût nécessaire. Ce sera le concile de Trente, mais il faudra attendre 1545. La diète d'Augsbourg s'ouvrit le 15 juin 1530. Elle est la première profession de foi protestante. Mélenchon y était présent. Luther ne pouvait y assister car il avait été mis au banc de l'Empire. Toutefois, l'électeur de Saxe l'avait fait venir au voisinage dans la forteresse de Cobourg. La confession d'Augsbourg proclamait impossible la réconciliation avec les catholiques. Le texte fut rédigé et sans cesse modifié par Mélenchon, une personnalité très attachante par son esprit de modération, de justice et de droiture. Tout jeune, il s'intéressait surtout à la littérature grecque. Il avait traduit son nom allemand de Schwarzenerd en grec, Mélenchon, ça veut dire la même chose, la terre noire. L'esprit religieux lui fut étranger jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à sa rencontre avec le prédicateur Martin Luther, qui lui présenta le christianisme avec passion. Il y trouva le repos de son âme. Certes, plus tard, Luther le déçut par une vie qui ne fut pas toujours exemplaire, alors que Mélenchon lui répétait « Celui qui prêche le Christ doit être très édifiant dans sa vie ». Il avait compté sur la réforme pour élever les mœurs, mais il finit par trouver l'autorité laïque aussi pesante. La diète d'Augsbourg commença par la protestation des luthériens. Elle débuta le jour de la fête Dieu. Les princes protestants refusèrent d'y participer, car ils ne croyaient pas en la permanence du corps du Christ dans les saintes espèces. Certains disaient que pour prêcher, il suffisait d'injurier le pape et les moines, c'est curieux de théologie. La confession d'Augsbourg comprenait 21 articles, dont 7 contre l'Église catholique. Le premier principe était celui de la justification par la foi seule, qui permet de s'approprier les mérites du Christ sans aucune œuvre. On appelle ça la justice imputative. Mélenchon n'osa pas le nier. Il se contenta de l'exposer sans prendre parti à la discussion. Il fit subsister la confession et l'absolution, attaquant l'erreur selon laquelle l'homme peut gagner le ciel par ses propres mérites, une erreur condamnée dès le IVe siècle sous le nom de pélagianisme. La confession d'Augsbourg niait l'efficacité du sacrement en lui-même. alors que l'Église prêche que c'est en vertu de l'acte même que le sacrement agit, ex opere operato. Cela mériterait maintenant quelques parties, oui. Augsbourg maintenait quelques parties de la messe tout en rejetant d'autres. Elle supprimait le canon, mais gardait les ornements. La messe luthérienne conserve tout le décor. On peut avoir l'impression d'une messe catholique au cours d'une cérémonie, comme ce fut mon cas au cours de la visite d'une église, un magnifique édifice roman en Norvège. L'extérieur est conservé, mais non l'essentiel. Un peu le contraire de certaines liturgies contemporaines. La confession d'Augsbourg faisait un tri parmi les saints, admettant saint François d'Assise mais refusant saint Thomas d'Aquin et rejetant de toute manière leur intersection éventuelle. Autre point sérieux, elle rejetait le célibat des prêtres. Cette confession fut maintes fois retouchée. Elle ne fut jamais totalement admise par les protestants qui n'y voyaient qu'une étape. Satan veillait à ce que la rupture fût effective. Luther se désintéressait peu à peu des discussions. Il se réfugiait dans son travail de traduction et dans sa rancœur contre le pape. Il restait des heures entières implorant Dieu pour sa réforme, voire lui jetant comme un défi « Si tu ne sauves pas mon évangile, je cesse de croire en tes promesses. » C'est tout de même de l'orgueil. Finalement, cette confession d'Augsbourg finit par produire un formulaire de la doctrine protestante, ainsi appelé parce que les princes avaient protesté. L'empereur la condamna sans toutefois l'attaquer par la force. La réforme subsista surtout grâce à l'appui des princes. Cette dépendance vis-à-vis des princes connut une crise sérieuse lorsque le landgrave de Hesse demanda à Luther de pouvoir contracter un second mariage du vivant de sa première femme dont il avait déjà 8 enfants. Une situation analogue se présentera peu après en 1534, lorsqu'Henri VIII d'Angleterre demanda la même chose au pape qui refusera. Ce fut l'origine de l'anglicanisme. Mais devant la pression des protestants, Luther accepta à condition que le secret fût gardé. Le respect de la sainteté du mariage n'est pas un détail accessoire. L'Église tient essentiellement à l'indissolubilité du mariage, élément capital de la dignité de la femme, qui n'est pas comme un meuble ou une voiture dont on se sépare lorsqu'elle ne donne plus satisfaction, à moins que ce ne soit le mari qui soit rejeté. Il est certain que Luther, qui avait abandonné ses vœux de moine pour se marier, était un peu mal à l'aise sur ce point. Cela amène à rappeler la dignité, la grandeur du célibat consacré à Dieu. Tout abandonné pour Dieu n'est pas donné à tout le monde. Il s'agit toutefois d'une vocation personnelle, celle du mariage chrétien aussi. Il faut fleurir là où Dieu vous a planté, a dit sainte Thérèse. Dans le sacrement de mariage, le prêtre n'est qu'un témoin du sacrement que deux personnes s'administrent l'une à l'autre. L'Église a toujours défendu le mariage, même contre les gnostiques, pour lesquels tout ce qui est charnel est mauvais. L'union sexuelle a un côté sacré, puisqu'elle est à l'origine d'une âme créée à l'image de Dieu qui habitera le corps procréé. À la fin de sa vie, Luther ne put que constater les conséquences parfois dramatiques de ses positions. La confession d'Augsbourg n'avait pu fonder une nouvelle orthodoxie. La désunion, voire la guerre, s'installait partout. Il y eut la révolte des paysans, celle des anabaptistes, la séparation de la Suisse, les dissidences en Allemagne, le calvinisme, etc. La bigamie du landgrave ne pouvait que le plonger dans le monde de doutes et d'inquiétude. Ces dernières années, les années de Luther, furent marquées par la douleur que les princes lui apportaient en profitant des avantages que leur apportait la réforme, c'est-à-dire de s'emparer de tous les biens de l'Église, sans avoir en rien contribué à sa naissance. Où était-il quand j'allais droit tout seul devant l'empereur en face du pape? Luther restait enfermé dans son orgueil, où il est impossible de trouver la joie en même temps que la haine. Peu avant sa mort, le docteur Jonas lui demanda s'il mourrait dans la foi ou qu'il avait enseigné. « Oui, répondit-il. » Ainsi mourut Luther le 16 février 1546. Je vous souhaite un bon été.